Cette ambiguïté, si vous voulez, elle est justifiée par plusieurs raisons. Je cite seulement deux raisons. La première, c'est que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas avoir des relations avec un pays qui a développé des capacités nucléaires. C'est la législation de l'administration américaine. Et donc, il y a la peur de voir que l'aide américaine soit coupée. Et puis, la deuxième raison, c'est que vous êtes quand même dans une région où tout le monde fait le maximum d'efforts pour avoir la bombe atomique. Et par conséquent, les Israéliens ont bien intérêt à ce que les voisins restent dans le flou, qu'il n'y a pas une déclaration officielle pour dire que les Israéliens possèdent bel et bien l'arme atomique.
Est-ce que c'est pas paradoxal quand même que les États-Unis continuent ce rapport avec Israël, sachant qu'ils sont au courant, non, quand même?
C'est tout à fait ça. Donc, on parle d'un paradoxe américain dans la mesure où, depuis le plan Barouche en 1946 et aussi depuis 1966, le traité de non-prolifération, les Américains ont eu une démarche un peu ambiguë. Au fond, est-ce que les Américains n'ont pas voulu, à un moment donné de l'histoire, selon leur intérêt, à la fois en Asie mais aussi au Moyen-Orient, ont plus ou moins fermé les yeux sur le fait que les Indiens, eux, développent les armes atomiques puisqu'il y avait la peur bleue de monstres jaunes chinois. Et puis les Américains ne peuvent pas nier d'avoir fermé les yeux sur le programme nucléaire israélien pour des questions à la fois régionales, mais aussi pour d'intérêt international de l'époque. C'est une partie là où il y a eu le plus de guerres en 50 ans. Donc on peut comprendre pourquoi Washington a voulu volontairement fermer les yeux sur certains dossiers, ce qui n'est plus le cas maintenant.
Aujourd'hui, Washington ne veut plus fermer les yeux.
Le problème pour Washington en ce moment, elle ne peut pas fermer les yeux parce que vous avez dans cette région des puissances nucléaires avec quand même une conflictualité qui peut surgir à tout moment. On parle maintenant des Iraniens. Vous imaginez la région avec Iran, puissance nucléaire. Ça peut quand même changer tout l'équilibre que Washington a voulu mettre en place depuis 50 ans. Puis pour ne pas parler aussi de groupes armés comme le Hamas, comme le Hezbollah. Et c'est là le dilemme à la fois pour les Israéliens mais aussi pour les Américains. L'administration Bush n'arrive plus à s'en sortir à la fois de la question irakienne, comment faire avec la question de l'Iran.
On parle de Washington. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui prennent part à ce jeu entre guillemets nucléaire? Je pense par exemple à la France.
La France aussi, elle a sa part de l'ambiguïté. La France, quand même, en 1956, a donné ses accords pour construire les réacteurs nucléaires israéliens, mais contrepartie, les Israéliens devaient se retirer de ce qu'ils ont acquis pendant quelques jours en 1956, lorsqu'ils ont pris la zone du canal avec un certain Ariel Sharon à l'époque qui voulait prendre le Caire carrément.
Aujourd'hui, quels sont les risques sur le plan international de cette puissance nucléaire qu'est Israël?
Les Israéliens ont toujours eu, malheureusement ou heureusement pour la région, se sont trouvés face à des gens indissuadables, c'est-à-dire que les gens que l'arme nucléaire ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner par ailleurs. Saddam Hussein qui a envoyé ses missiles sur Israël en 91. Et puis maintenant, on se trouve face à un certain Ahmadinejad qui ne reconnaît pas l'État hébreu. La grosse bombe n'a pas non plus dissuadé les petits acteurs comme le Hamas ou les Hezbollah. Quelle est la stratégie qui pouvait adopter un pays comme Israël si le mur de séparation actuel est à son tour échoué? Nous nous trouvons dans une situation où même les armes les plus puissantes, comme les armes nucléaires, ne sont pas forcément la façon de trouver la sécurité absolue pour un État qui se considère comme un État menacé de tous côtés.